J'introduis cette phase de notre culte parce que c'est dans le groupe d'instituts bibliques qui se réunit avec moi que la question qui est à notre ordre du jour a été posée. C'est là qu'elle a surgi. Il s'agit du respect des autorités civiles, mais dans la situation plus particulière que nous connaissons de tensions, même parfois douloureuses, avec les décisions que les autorités favorisent. Tension entre leur orientation et celle que l'Écriture sainte nous semble tracer. Je vous propose de nous laisser exhorter d'abord par une parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets suivants. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Nous voudrions que tout fût simple, ou en tout cas, tout harmonieux, sans chaos, sans contrainte ni opposition. Mais l'harmonie originelle en laquelle le Seigneur nous avait créés, vous le savez qu'elle a été gâtée par l'irruption du péché, par la désobéissance de l'humanité qui s'est détournée de la voie du Seigneur. Première complication. Et complication supplémentaire, pourrait-on dire, qui fait que notre situation n'est pas si facile à appréhender et à gérer, la riposte de Dieu à cette trahison de sa créature humaine. Dieu n'a pas voulu l'abandonner. Dieu, contre l'action de l'adversaire, mais cela dans un monde qui a été marqué par les deux phases précédentes, la création et la déchéance, l'irruption du mal. Il y a trois facteurs qui se combinent et des tensions en résultent. Nous sommes, nous, le peuple, au bénéfice de cette action qui se déroule dans l'histoire, que Dieu mène pour le salut des siens, mais nous sommes aussi des créatures, d'abord des créatures, et des créatures marquées par le péché, solidaire d'un monde qui gît dans le mal ou le malin, comme dit la première épître de Jean. Alors ce n'est pas simple. Le Seigneur Jésus dit que nous sommes dans le monde, il ne demande pas au Père de nous ôter du monde, mais non pas du monde. Nous sommes dans la chair, mais nous n'avons pas à vivre selon la chair. Nous sommes citoyens de la cité d'en haut, l'épître aux Philippiens le souligne, notre cité, notre citoyenneté est d'en haut. Oui, mais nous sommes aussi citoyens de la cité terrestre, nous avons une nationalité, nous avons un droit de vote, et l'apôtre Paul faisait valoir sa citoyenneté romaine quand le livre des Actes nous montre ses démêlés avec les divers groupes et les diverses sociétés. La loi de Dieu est inscrite dans notre cœur, du fait de notre création. Mais elle a été raturée, déformée, effacée par les effets du péché, comme dans toute l'humanité. Mais elle nous a été à nouveau révélée dans sa pureté par la parole de Dieu. Elle nous a été inscrite à nouveau dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a donc la loi de Dieu, mais aussi il y a les lois que les hommes promulguent, les lois des autorités civiles. Ces autorités civiles elles-mêmes, elles ont été instituées par Dieu, et toute leur autorité vient de lui, nous dit l'Épître aux Romains, mais elles se transforment aussi en ce monstre que l'Apocalypse dévoile. C'est l'État romain dont parlait Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, qui est représenté, en tout cas c'est sa première signification, par la bête de l'Apocalypse. Et les apôtres nous font savoir qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La situation est donc complexe. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour nous guider. Et notre situation en 2014 a cet élément de complexité supplémentaire qu'il y a une évolution qui accroît pour nous les tensions. Pendant les siècles de chrétienté, beaucoup de gens n'étaient pas régénérés, n'étaient pas réellement nés de nouveau. Mais il y avait une influence du christianisme et les législations, le discours moral officiel n'étaient pas trop opposés à ce que nous trouvons dans la Bible. Les gens péchaient, mais ils péchaient contre ce que quand même on admettait en général comme le bien. Deux siècles au moins de déchristianisation aboutissent à la situation que nous connaissons, où le discours le plus officiel devient un discours qui s'oppose à l'enseignement que Dieu nous a donné dans sa parole. Alors comment faire? Comment disposer dans notre regard les différents éléments qui sont en cause? Voilà ce que nous devons essayer de cerner ensemble. Nous commençons en tout cas à effectuer ce travail d'étude ce matin.
Voilà, je voudrais donc dans un premier temps essayer de reprendre quelques éléments bibliques sur le rôle et le statut des autorités civiles, rassembler un certain nombre de données bibliques. Je garde pour la suite de la discussion éventuellement quelques mots plus en relation avec vivre dans une société plurielle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quelques repères donc bibliques sur le rôle et le statut des autorités civiles. D'abord, le contexte dans lequel le Nouveau Testament est présenté, l'Église s'est développée dans un contexte déjà régi par un pouvoir politique structuré. L'État était là bien avant elle, bien avant l'Église. Jésus lui-même entre dans le monde sous l'autorité de l'empereur Auguste. C'est ce qui lui vaut de naître à Bethléem. Il est mort sous Ponce Pilate. Lorsque Jésus a été interrogé sur la légitimité de payer l'impôt à César, il a eu cette fameuse parole « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » Matthieu 22, verset 21. Jésus distingue donc ici très clairement le domaine civil du domaine religieux. Il distingue tout en validant chacun en son ordre. Pour Jésus, César, même occupant, a sa place, non pas comme un César divin qui se fait adorer, mais comme un César qui n'est que César, dans son rôle humain de César. Et là, il faut rendre à César ce qui lui est dû, nous dit Jésus. Cela suppose une autorité, une certaine légitimité, demander l'impôt. Par contre, Jésus aura soin de rappeler à Pilate, lorsque Pilate voudra un petit peu trop affirmer son autorité propre en face à lui, il a soin de lui dire « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut ». Ce qui veut dire que le pouvoir de César n'est pas indépendant de l'autorité de Dieu, mais il se situe à l'intérieur de la sphère de l'autorité de Dieu. Paul, lorsqu'il parle de l'autorité, nous rappelle que les autorités ont été instituées par le Seigneur. C'est le texte de Romains, chapitre 13, qui a été évoqué déjà tout à l'heure. Je vous relis les deux premiers versets. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité sinon de par Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » C'est le début d'un texte qui continue ensuite en disant le rôle de l'autorité civile. Alors, quelques remarques ici sur ce texte de Romains 13. Dans quel sens les autorités sont-elles instituées par Dieu? Paul veille assez soigneusement, semble-t-il, sur son langage. Il ne dit pas « il n'y a pas d'autorité sinon de Dieu ». Mais il dit « il n'y a pas d'autorité sinon par Dieu ». Et le changement de préposition dit ici, d'une certaine façon, une petite distance. Le lien peut être indirect. Dieu a voulu qu'il y ait une autorité sur les sociétés humaines et les individus qui exercent cette autorité entrent dans cette disposition générale voulue par Dieu. Pareillement, résister à l'autorité, ce n'est pas simplement résister à Dieu, mais c'est résister, dit Paul, à l'ordre que Dieu a établi. Et ces prudences de vocabulaire favorisent la conception que c'est le principe d'une autorité qui a été instituée par Dieu, qui a été voulue par Dieu, plutôt que des personnes qui, de par elles-mêmes, seraient là de droit divin, en considération de leur simple personne. Deuxième remarque sur ce texte, le magistrat est institué avec une mission. Il est là, dit Paul, dans tout ce passage, pour le bien, contre le mal. Il approuve ceux qui font le bien, il est à craindre quand on fait le mal. Une mission. Troisièmement, il faut se poser une question sur ce que veut dire exactement ce texte lorsque Paul décrit ce qu'est l'autorité. Est-ce qu'il dit ce qu'elle est par définition, elle est par définition là pour le bien, ou est-ce qu'il dit ce qui doit être ? Une petite anecdote, en 1985, un chrétien chef d'entreprise a été convoqué en Afrique du Sud, c'était le temps de l'apartheid, par le président Peter Botha. Et le président Botha l'a accueilli, s'est levé, et au tout début de l'entretien a lu ce texte du début de Romains 13. « Soyez soumis aux autorités, elles sont instituées par Dieu. » Pour lui, ce texte impliquait tout naturellement qu'un chrétien donne son soutien à la politique d'apartheid du gouvernement, parce que c'est un état de fait. Ce que disent les autorités, c'est ce qui vient de Dieu. Alors si c'est ça ce que dit vraiment, si c'est seulement descriptif d'un état de fait, cela veut dire que quand on dit que l'autorité est le serviteur de Dieu pour ton bien, cela veut dire que quoi que fasse le magistrat, il a le label de Dieu, et je dois le recevoir comme étant mon bien. Ça, c'est si le texte est simplement descriptif. Mais si ce texte est plutôt prescriptif, c'est-à-dire s'il dit ce qui doit être, à ce moment-là, c'est autre chose. On a là l'affirmation d'une mission. Voilà ce que doivent être les autorités. Et c'est quand même pas la même chose, hein. Entre être par définition ou devoir être, il y a quand même une nuance. Et je crois que le contexte favorise une compréhension prescriptive. L'autorité est décrite comme étant sous l'autorité de Dieu. Et sous l'autorité de Dieu, il n'est pas question que l'on se gargarise de sa propre autorité et que l'on absolutise sa propre autorité. Le fait d'être ainsi serviteur de Dieu rappelle un devoir à l'égard du Seigneur. Et donc c'est plutôt dans le sens d'une mission. Voilà ce que doivent être les autorités. Un mot encore, le texte de Romains 13 parle des impôts et des taxes. Les autorités ont besoin de moyens pour exercer leur mission. Et Paul dit, rendez donc à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est Romains 13, verset 7. Et cette idée que nous avons aussi à participer au bien commun de cette façon-là. Autre élément du Nouveau Testament, c'est qu'on recommande la prière pour les autorités. La prière pour les autorités est recommandée par Paul, 1 Timothée 2, versets 1 à 2, et ça a été tout au long de l'histoire une attitude caractéristique de la chrétienté que de prier pour les autorités. C'est dit que les autorités ont besoin du secours de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et puis, dernier point que je relève, qui a déjà été souligné, c'est que le Nouveau Testament souligne que l'autorité peut prendre, lorsqu'elle s'absolutise, lorsqu'elle s'enivre de son pouvoir, lorsqu'elle en abuse, elle peut devenir un pouvoir dangereux et devenir quelque chose de quasi bestial. C'est la face bestiale de l'autorité qui est décrite dans Apocalypse 13, 18. Ces autorités arrogantes qui s'opposent au peuple de Dieu sont décrites comme deux bêtes. Alors c'est repris du livre de Daniel qui avait déjà ainsi décrit les grands empires dans leur arrogance. Mais c'est pour dire qu'il y a un moment donné où l'autorité perd d'une certaine façon sa dignité humaine lorsqu'elle s'absolutise de cette façon. Et il y a là une dérive qui est lucidement présentée dans l'Écriture. Et là, on est très loin de l'État au service de Dieu pour punir ceux qui font le mal et approuver les gens de bien. Voilà pour quelques repères, si vous voulez, sur la façon de considérer l'autorité. Maintenant, quelques mots sur les positionnements chrétiens face à l'autorité. Quels sont les positionnements du chrétien face à l'autorité dans cette perspective ? La ligne générale du Nouveau Testament est celle de la soumission aux autorités, le respect pour elles et pour leurs fonctions. Certes, il est clair qu'en cas de conflit entre la volonté de Dieu et celle des autorités humaines, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dit très clairement, ça a été vécu aussi par les apôtres, acte 5, verset 29. Mais il faut quand même relever que lorsque Paul invoque la conscience des chrétiens, ce que nous devons faire par motif de conscience, c'est pour leur demander de respecter l'autorité. Il est dit, il est nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la position, de la punition, mais plus encore par motif de conscience. Donc c'est juste intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, le motif de conscience est la reconnaissance du rôle des autorités. Ça n'exclut pas le fait que par motif de conscience, on doive aussi s'opposer parfois, mais j'aimerais juste quand même relever cette perspective-là. Et si on valorise, si vous voulez, ce rôle, cet aspect, cette reconnaissance du rôle positif des autorités pour le bien général, cela peut valider une participation active des chrétiens aux responsabilités civiles. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, Daniel, dans le royaume de Nebuchadnezzar, est un exemple de fidélité et d'engagement, et au service même du monde païen. Nous le savons, il était irréprochable même dans ce service. Donc voilà pour la ligne générale qui considère le respect de la fonction des autorités. Alors, la question c'est, n'y a-t-il que la soumission comme attitude chrétienne ? Il faut reconnaître que les textes bibliques qui demandent le respect et la soumission ont souvent engendré une sorte de conformisme social chez les chrétiens. Est-ce bien là l'enseignement du biblique ? Quelques repères ici. Premier repère, c'est de relever le fait que Jésus n'a pas ménagé son langage. Il a montré son indépendance critique et sa lucidité, ici ou là, face aux autorités. Il dénonce par exemple Hérode en disant « dites à ce renard ». Et si Jésus emploie ce mot-là, c'est quand même qu'il a une distance critique à l'égard d'Hérode, c'est évident. Les textes de l'Apocalypse, deuxième élément, dénoncent comme bestial le pouvoir qui s'absolutise. Et là, il y a une forte affirmation que lorsque l'État sort de son rôle, il peut devenir un monstre parfaitement malfaisant. Et puis troisièmement, l'attribution d'une mission et d'un mandat aux autorités fonde le fait qu'elles puissent être évaluées en fonction de ce mandat et de cette mission. Et il est important de dire, oui, si, parce que l'autorité a une mission, elle doit pouvoir être évaluée aussi en fonction de cette mission. Pourtant, il faut rappeler quand même, si on critique l'autorité, la nécessité de garder le respect à cause de ce mandat même. Le mandat même, qui est une obligation pour l'autorité, est aussi ce qui fonde sa légitimité. Donc il faut réussir à équilibrer les deux choses. Et lorsque Calvin, par exemple, commente le devoir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, il précise, il dit « tu t'opposeras, oui, mais sur ce point seulement ». Et c'est très intéressant comme note parce que ça permet de dire « oui, opposition là où il le faut, mais quand même respect ». Donc les fondements d'une attitude critique sont donnés dans l'Écriture par ces éléments. Alors, il peut arriver quand même qu'il faille plus qu'une protestation et que certaines lois injustes doivent être refusées ou combattues. Que faire alors ? Les chrétiens, en général, ont choisi des formes de résistance compatibles avec une attitude de respect des autorités. C'est un petit peu dans ce créneau-là que les chrétiens se sont situés. Alors d'abord, il y a l'utilisation de tous les moyens légaux de protestation ou de combat. Et je crois qu'il faut dire que tous ces moyens qui sont donnés, nous avons la chance de vivre dans un contexte où cela est possible, ces moyens sont légitimes, ils sont encadrés par la loi. Vote, pétition, manifestation, alliance politique, etc. Tout cela fait partie des choses légitimes et il est juste de pouvoir utiliser ces moyens-là pour protester là où il faut protester. Un deuxième principe qui a été appliqué par les chrétiens, ça a été la pratique de la désobéissance civile. Alors cette idée de la désobéissance civile, ça essaye d'unir désobéissance et soumission. Je désobéis à la loi que j'estime comme injuste, mais j'accepte la conséquence légale de cette désobéissance. J'accepte les conséquences que cela peut avoir pour moi. Alors, cette pratique de la désobéissance civile peut simplement marquer au niveau personnel ou un groupe un refus pour motif de conscience. Et souvent, à ce moment-là, c'est un peu de type sacrificiel. On paye de sa liberté, on paye de ses biens ou de sa vie l'exigence éthique. Il est arrivé aussi que la désobéissance civile puisse devenir un moyen de pression pour faire changer les lois et les pratiques. Dans son combat contre les discriminations raciales, Martin Luther King a fonctionné selon ce principe de la désobéissance civile qui mettait ensuite en lumière l'injustice des autorités dans leur répression injuste. Bibliquement, l'exemple le plus parlant de désobéissance civile est celui des sages-femmes en Égypte lors du meurtre des enfants hébreux ordonné par le pharaon. Elles ont refusé d'appliquer cela. Et le texte nous dit, elles craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte avait dit. Exode 1, verset 17. Alors une question quand même sur ce motif de conscience qui nous permet de refuser d'obéir à l'autorité ou de considérer qu'il y a un devoir plus élevé. Est-ce que cela veut dire que nous avons en tant que chrétiens le libre choix de nos obéissances et de nos refus ? Est-ce que, d'une certaine façon, en tant que chrétien, du coup, parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, etc., nous allons pratiquer une obéissance à la carte, selon ce que nous estimons juste ou injuste ? Je crois qu'il faut se rendre compte que si cette pratique-là est systématisée, cela revient à saper le fondement même de l'autorité, parce que nous prendrions une position de juge permanent sur l'autorité. Et je crois qu'il faut se rappeler que le respect de l'autorité implique la soumission même à des lois avec lesquelles on n'est pas d'accord ou qui nous sont défavorables. Il faut bien noter cela. Je pense que, par exemple, l'interdiction de porter des signes religieux pour un fonctionnaire peut faire partie des choses qui sont défavorables, qui ne nous plaisent pas. Je suis pas certain que ce soit là un motif de résistance au nom du principe « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Quel est le critère qui fait basculer vers une loi injuste à laquelle résister ? Deux éléments. Une loi injuste est une loi qui s'oppose vraiment nettement à un principe biblique. Et une loi injuste, deuxièmement, est une loi qui nous oblige à pécher si nous l'appliquons. Elle nous oblige à pécher si nous l'appliquons. C'est ce qui s'est passé quand on demandait aux sages-femmes de mettre à mort les jeunes bébés juifs. Donc voilà, importance quand même d'avoir un critère net sur cette question-là. Autre question, peut-on aller jusqu'au renversement de l'autorité injuste ? Je crois que le principe du renversement possible d'une autorité injuste est affirmé dans l'Écriture, en tout cas décrit. Darius le Mède, par exemple, a opéré le jugement qui avait été annoncé sur Belshazzar dans Daniel 5 et 6. Et on sait que dans un monde mauvais, d'une certaine façon, il y a souvent une certaine justice immanente qui se fait entre le jeu des pouvoirs et de contre-pouvoirs, des volontés de puissance les unes sur les autres. Et c'est parfois ce que Dieu dit quand il est dit, voilà, tel peuple est injuste, oui, mais un autre peuple viendra les renverser. Alors, ça c'est le principe, disons. Alors, est-ce qu'on peut participer activement au renversement, s'il semble justifié ? Les critères me semblent être, d'une part, la justice de la cause, il faut être bien sûr de cela, l'adéquation morale des moyens, c'est un deuxième élément qui est très important, et troisièmement, la possibilité d'un régime alternatif meilleur. Il me semble que la lutte armée, par exemple en temps de paix, où on s'opposerait à un gouvernement par la lutte armée, dont les populations feraient les frais, est à refuser, alors je dirais à refuser autant que possible. Envisageable peut-être, à la limite, après avoir tout essayé, mais il faut vraiment veiller à cause du problème de l'injustice des moyens qu'elle implique. Je ne parle pas ici de la guerre, je distingue la guerre de la lutte armée en temps de paix. Enfin, un dernier point que je voudrais souligner, c'est la question de la conscience individuelle. La conscience individuelle est une limite absolue imposée à l'État. Et que l'État doit reconnaître. dès que l'État prétend agir sur les consciences, il franchit une frontière qu'il n'a pas le droit de franchir. L'État ne peut légiférer et juger que sur les actes extérieurs. Il n'a pas le pouvoir sur les consciences. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, dit Jésus, et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Et cette distinction est importante parce qu'elle montre vraiment la spécificité de la conscience individuelle. Et cette limite doit se traduire dans le droit du citoyen, liberté de conscience, liberté du culte, liberté d'exprimer son opinion. Alors, un débat doit être mentionné ici, et je terminerai par cela. Il se situe dans la tradition calvinienne. La question est-ce que le magistrat doit faire appliquer la première table du décalogue, celle qui dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et qui parle des devoirs à l'égard de Dieu ». Alors Calvin a fortement affirmé que oui, que le rôle du magistrat de l'État est aussi de faire appliquer la première table du décalogue. Et il dit « la responsabilité du magistrat inclut de préserver ce qu'il appelle le service extérieur de Dieu ». Qu'est-ce que c'est que le service extérieur de Dieu pour Calvin ? Il ne s'agit pas de contraindre les consciences, ce n'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit. Là, il est très clair, mais il dit « il s'agit d'empêcher la manifestation publique de l'hérésie ou de blasphème ». Et donc, dans ce sens, les devoirs des magistrats s'étendent aux deux tables de la loi, faire appliquer les devoirs à l'égard de Dieu et les devoirs à l'égard du prochain. Face à cette position, quelques décennies plus tard, Roger Williams défendra, qui est un baptiste, au nom de la liberté de conscience, que la première table du décalogue n'est pas du ressort de l'État. L'État ne doit intervenir que dans le domaine civil. Tout ce qui touche à la religion est du ressort de la conscience de chacun. Et je vous lis juste un extrait de ce qu'il dit. « C'est la volonté et l'ordre de Dieu que depuis la venue de son Fils, le Seigneur Jésus, soit accordé à tous les hommes, dans toutes les nations et dans tous les pays, que ces hommes soient païens, juifs, turcs ou antichrétiens, leur soit accordée la liberté de conscience et de culte, et qu'ils soient combattus dans le domaine spirituel par aucune autre épée que celle de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui seule peut vaincre. » Alors c'est une question qui est importante, elle a toute son importance pour nous, toute son actualité. Nous devons militer pour le respect de ce droit à la liberté de conscience, pour nous-mêmes comme pour les autres religions, pour les autres cultes, même ceux que nous considérons comme n'étant pas dans la ligne de nos convictions chrétiennes. Il en va de l'authenticité de la foi. La foi, pour être authentique, ne peut pas s'imposer par la contrainte. Et c'est là cette attention particulière aux moyens qu'il nous faut toujours considérer, aux armes que nous employons. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, dit l'apôtre Paul, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et on voit que là, il n'est pas question de contrainte. Les armes que nous utilisons ne sont jamais les armes de la contrainte, ne pourront pas l'être, mais c'est les armes de la conviction et de la parole de Dieu qui travaillent les cœurs. Et il est très important pour nous d'intégrer cela aussi dans la manière dont nous nous situons dans notre société aujourd'hui. Voilà pour quelques repères que je voulais donner maintenant. Et Karim va nous donner un exemple historique qui nous fera réfléchir.
Voilà, donc, après, une fois que le cadre théologique biblique est posé, j'apporte ma contribution à cette réflexion portera sur un exemple qui nous rappelle l'actualité récente de notre pays, mais qui s'inscrit aussi dans l'histoire des protestants français. Et je vous propose donc de considérer la question du mariage en lien avec la loi civile. Et à partir de cet exemple-là, spécifique du mariage, certaines conclusions peuvent être tirées et rejoindre certains endroits, celles qui ont été déjà tirées par notre pasteur Thierry Husser. Donc, nous avons l'habitude d'enseigner que c'est le passage devant l'autorité civile qui constitue le mariage entre deux personnes. C'est ainsi que nous parlons du mariage civil, et pour ceux qui sont tentés de sacramentaliser le mariage, nous nous précipitons de leur rappeler que le mariage a eu lieu devant Monsieur le maire et non pas lors de la cérémonie religieuse, qui n'est autre que la demande de bénédiction à Dieu de cet engagement. Et le fondement théologique du passage devant Monsieur le maire est clairement défendu par notre frère Henri Blocher dans un article déjà en 1984 qui porte le titre « Fondement biblique du passage devant Monsieur le maire ». Si vous vous êtes intéressé par l'article, je vous ferai une copie volontiers. Du point de vue biblique, le mariage comporte trois éléments. D'abord, un engagement, une alliance, un accord entre deux personnes de sexe opposé. Ensuite, cet engagement prend son plein sens entre ces deux personnes dans l'union entre ces deux personnes, aussi bien sur le plan charnel, sexuel, et aussi, bien entendu, plus largement. Et enfin, un dernier élément, c'est la publicité ou socialité de cet engagement entre ces deux personnes. Cette socialité ou cette publicité de mariage se manifeste concrètement par le fait de rendre l'engagement entre ces deux personnes, de le rendre public, où la société est invitée d'une certaine manière à voir, constater, participer à ce projet entre deux personnes engagées. Le passage devant l'autorité civile s'inscrit dans ce dernier volet de publicité du mariage. C'est une manière dont notre société en France de rendre le mariage public que d'aller, de passer devant le maire. Donc c'est pour passer devant le maire pour satisfaire cette exigence de la socialité, donc, qui revient régulièrement dans les mariages célébrés dans la Bible. Voilà pourquoi donc nous avons l'habitude de rappeler l'importance de passer devant Monsieur le maire lors de les célébrations religieuses. Et l'accent est tellement mis sur ce point que parfois nous faisons un raccourci direct et réduire que le mariage, c'est le passage devant le maire. Mais avons-nous raison de dire que c'est toujours devant l'autorité civile que le mariage ait lieu? La loi en France, en effet, oblige tout ministre de culte, en ce qui nous concerne les pasteurs, les protestants, de vérifier que, avant de célébrer toute célébration religieuse du mariage, de vérifier que le mariage ait lieu devant les autorités civiles d'abord. L'enregistrement du mariage à l'état civil est antérieur à la cérémonie religieuse. Tout ministre de culte qui s'aventurerait à célébrer un mariage qui n'est pas encore enregistré à l'état civil encourt une peine qui relève du code pénal. Il y a même 6 mois d'emprisonnement, voire avec une amende qui peut aller jusqu'à 7 500 €. Donc, la loi du mariage pour tous, votée l'année dernière en France, a ouvert le mariage aux couples du même sexe. Ainsi, la France devient le 9e pays européen et le 14e au monde à qualifier de mariage une union de deux personnes du même sexe. Cette loi a fait réagir, et à juste titre, les chrétiens de tous bords, et même au-delà des chrétiens. Certaines associations, même homosexuelles, ont contribué à cette réaction. Mais au-delà de cette mobilisation, il me semble qu'il nous faut poser la question de la place à accorder à la loi civile sur le mariage. En d'autres termes, nous devons régulièrement considérer dans quelle mesure le passage devant l'autorité civile remplit le critère de la publicité du mariage. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que les protestants, ou que les chrétiens, en particulier les protestants, sont invités à penser leur relation à la loi civile sur la question du mariage. C'est déjà le cas s'est produit dans l'histoire des protestants en France, et notamment par les Huguenots. Je signale au passage la thèse du doyen de la faculté de Jean Calvin d'Aix-en-Provence qui a été soutenue sur ce sujet il y a l'année dernière, en décembre 2014, dont le titre porte « Les protestants de France et la sécularisation du mariage à la veille de la Révolution française, Rebaud Saint-Étienne et l'édit de tolérance 1787. Et les exemples historiques, je les dois, à vrai dire, au travail donc de notre frère Michel Yonner. Donc, je vous propose de considérer trois cas de figures liées justement au contenu de la loi civile. Le premier cas de figure, c'est lorsque la loi civile est plus restrictive que ce que le chrétien peut accepter à la lumière de l'Écriture. Dans ce cas-là, la loi civile impose des règles supplémentaires à ce que nous aurions toléré du point de vue biblique. C'est le cas, par exemple, sous le régime de l'édit de Nantes, donc de 1598 à 1685, la loi du prince interdit le droit au divorce, y compris pour les personnes trompées. Or, l'Église permet aux personnes trompées, si elles le souhaitent, permet légitimement de divorcer sur l'enseignement, sur la base de l'enseignement de Matthieu 19. Toujours sous le régime de l'édit de Nantes, la loi du prince interdit le mariage entre cousins germains. Or, la Bible ne l'interdit pas. Le Pentateuque ne l'interdit pas forcément. Et dans ce cas-là, où la loi civile est plus restrictive, quelle devrait être notre attitude chrétienne ? Par obéissance aux institutions qui représentent l'ordre établi par Dieu, comme Thierry vient de l'énoncer, nous pourrions accepter de renoncer à certains avantages, dans la mesure où cela ne nous conduit pas à désobéir à Dieu. Cela implique certes un renoncement à des avantages légitimes, bibliquement bien sûr, mais comme divorcer, par exemple, pour une personne trompée ou encore se marier entre cousins germains, mais par obéissance aux autorités, à l'ordre établi par Dieu, nous sommes invités donc à nous soumettre à cette loi. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la loi civile est plus libérale, c'est-à-dire lorsqu'elle tolère des choses que l'Église, qui se veut être fidèle à l'Écriture, ne peut pas accepter. Sous le régime de la révocation de l'édit de Nantes, donc de 1685 à 1787, le mariage n'est pas reconnu par la loi du prince que s'il est soumis aux obligations de catholicité. Ces obligations sont entre autres l'abjuration, la participation à la scène, la réception de l'Eucharistie et ainsi de suite. Or, pour les protestants, il était impensable de participer à cela. À l'époque, ils considéraient même que cela faisait partie de l'idolâtrie. Un autre exemple d'une loi contraignante, c'est, et là on n'est pas des protestants français, mais ailleurs, c'est le cas des chrétiens en Algérie. Récemment, notamment, dans les régions arabophones, les autorités les obligent, leur demandent de passer devant un imam avant d'enregistrer leur mariage à l'état civil. Quelle doit être la réaction des chrétiens ? Que faire ? Respecter la loi civile ou opter pour la désobéissance civile avec les moyens, bien sûr, qui respectent le cadre posé par le Seigneur. Les protestants, sous le régime de la révocation de l'édit de Nantes, ont considéré que l'obéissance due au prince entre en conflit avec, et d'une manière frontale, avec une autre obéissance jugée beaucoup plus importante, beaucoup plus prioritaire, donc celle de Dieu. Et de ce fait, de 1740 à 1787, c'est-à-dire juste en 47 ans, il y a eu entre 180 000 à 400 000 mariages religieusement célébrés indépendamment de la loi du prince. C'est une désobéissance civile à grande échelle qui est le mariage, ce qu'on appelait le mariage au désert. Quant aux chrétiens en Algérie, ils ont décidé aussi de ne pas passer devant l'imam et du coup ne pas voir leur mariage tout simplement transcrit dans le registre de l'état civil pour le moment. La question qui se pose, c'est le critère de publicité. Pour satisfaire le critère de publicité ou de socialité du mariage, aussi bien les protestants sous régime de la révocation de l'édit de Nantes que les chrétiens en Algérie, ils ont fait appel aux responsables d'église qui jouent le rôle des anciens, les anciens au sein du peuple d'Israël, autrefois sur la question du mariage. Donc les responsables d'église ont joué ce rôle de publicité. En d'autres termes, le critère de la socialité du mariage est satisfait par les responsables de l'église qui, eux, veillent à ce que la publicité soit largement répandue dans la société sur le mariage ou sur l'engagement de deux personnes qui s'engagent dans le lien de mariage. Et dans ces deux cas, la loi civile ne laisse pas le choix aux chrétiens qui veut rester fidèle à l'Écriture. Et par conséquent, la règle qui s'impose est celle énoncée par les apôtres, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le passage est mentionné par Thierry, acte 5, 29. Nous devons exercer notre liberté, me semble-t-il, face aux exigences de toute autorité humaine. Si cette autorité ne nous empêche pas d'agir, en chrétien conséquent, nous devons lui obéir. Mais si elle va en contre de Dieu, nous devons prendre nos responsabilités et exercer notre liberté de désobéissance civile pour rester fidèles au maître de toute autorité. Ce choix risque d'être bien sûr coûteux et c'est aussi cela, obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. C'est accepter de payer le prix et les conséquences qui vont avec une telle décision. Je pense à, comme Martin Luther King a été cité, à Dietrich Bonhoeffer qui s'est opposé et qui a dû le payer très cher lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est opposé au régime nazi. Un troisième et dernier cas de figure, c'est lorsque la loi civile est plus libérale, c'est-à-dire lorsqu'elle autorise d'aller plus loin que ce que le commandement de Dieu permet aux chrétiens. Après l'édit de tolérance signé en 1787 qui autorise finalement le mariage même à ceux qui ne font pas profession de la religion catholique, à partir de là, les protestants donc peuvent se marier civilement. Seulement, la loi civile sur le mariage autorise des choses aussi qui vont bien au-delà de ce que la Bible tolère. La loi du prince autorise par exemple l'union entre l'oncle et sa nièce, alors que la loi de Dieu l'interdit, c'est le Lévitique 18. Un autre exemple plus proche de nous, c'est la loi du mariage pour tous, qui appelle mariage toute union entre deux personnes, y compris de même sexe. Or, pour la Bible, le mariage est réservé aux personnes de sexe opposé. Dans ce cas-là, l'attitude chrétienne, à mon sens, consiste à dire que l'Église n'est pas obligée de considérer mariage tout ce que la loi civile appelle mariage. Nous avons signalé les trois éléments qui ressortent des données bibliques sur le mariage, l'engagement, l'union et la publicité, mais il nous faut désormais préciser qu'il s'agit bien d'une union entre deux personnes de sexe opposé, entre personnes de sexe opposé. Jusqu'ici, la précision n'était pas du tout utile dans toutes les cultures et toutes les civilisations, mais vu l'évolution de notre monde moderne, cette précision deviendra de plus en plus nécessaire, voire même indispensable. La loi civile peut aller au-delà de ce que la vision biblique considère comme mariage tant qu'elle ne nous oblige pas à reconnaître comme mariage toutes les unions qu'elle célèbre. Si la loi nous oblige à célébrer toutes les unions, tout ce qu'elle appelle mariage, à le célébrer religieusement, cela, on se retrouverait dans le deuxième cas que j'ai évoqué tout à l'heure. Il me semble, tant qu'elle ne nous oblige pas, dans ce cas-là, nous pouvons rester obéissants à la loi, tout en restant vigilants et attentifs à toute évolution pour demeurer fidèles à l'Écriture dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Avant tout, ce que dit l'Écriture qui doit primer fondamentalement. Ces trois cas de figure de la loi civile sur le mariage peut, me semble-t-il, inspirer notre attitude vis-à-vis de l'autorité civile pour le reste aussi des domaines de la vie, comme par exemple ce qui touche au début de vie, comme la question de l'avortement, ou encore à la fin de vie, comme la question de l'euthanasie. Renoncement aux privilèges que nous offre la Bible lorsque la loi civile les interdit et qu'elle ne nous oblige pas à désobéir à Dieu. Désobéissance lorsque la loi civile nous oblige à obéir à Dieu. Et discernement lorsque la loi civile va au-delà de ce que la Bible nous ordonne. Telles sont donc les trois considérations que je vous propose et que j'apporte à notre réflexion et discussion.
Je n'ai pas à conclure, je vais ajouter quelques commentaires avant peut-être que M. Huzet reprenne la parole et nous indique de quelle manière nous allons donner suite à l'étude que nous entamons ce matin. Mais je fais quelques commentaires qui me semblent dans la ligne de ce que nous venons d'entendre. La sagesse consiste à bien repérer les vérités fondamentales, à avoir des points cardinaux bien en vue pour nous diriger dans le monde complexe où nous nous trouvons. Mais la sagesse consiste aussi à discerner, c'est le mot qu'a employé M. Areski, comment s'appliquent les principes qui sont relativement clairs. Quelles sont les zones où les choses sont moins nettes, où il faut jouer de nuances, où il faut parfois prendre des responsabilités quelque peu risquées dans la décision que l'on prend. Alors je voudrais souligner qu'il y a de telles jointures délicates. Le principe fondamental, c'est à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, le domaine de la conscience, le domaine religieux, n'est pas du ressort du magistrat, de celui qui a délégation d'autorité de la part de Dieu pour veiller sur l'ordre externe des choses. Oui, mais peut-on séparer si facilement sur le terrain? La question du mariage, qui vient d'être abordée, montre que ce n'est pas si facile que ça, qu'il y a des questions religieuses qui surgissent à propos des lois qui régissent l'ordre externe de la vie sociale des humains. Et la question du mariage n'est qu'une des questions pour lesquelles cela peut se poser. Et nous savons bien, il y a des sectes qui ont prôné le suicide collectif. Alors, est-ce que le magistrat doit dire « Ah, mais ça, c'est religieux, c'est leur foi, donc nous devons tolérer cela, l'État n'a pas à intervenir ». Non, à l'évidence. S'il y a des sectes même qui enseignent, ça peut exister, des sacrifices humains, c'est très religieux, hein, les sacrifices humains. Le magistrat doit quand même s'en occuper. Un problème moins dramatique, mais qui existe très concrètement, c'est celui de la conviction des témoins de Jéhovah à cause de l'interdiction de manger du sang dans le Pentateuch qui exclut les transfusions sanguines. Est-ce que le magistrat doit intervenir ou non? À mon avis, il ne suffit pas de dire « Ah, c'est leur religion » pour que la chose soit purement et simplement tranchée. Et cela se reporte sur cette question fondamentale des armes de notre combat, qui ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Oui, mais quand il y a une pression sociale très forte, quand il y a une très grande majorité dans un groupe social quelconque, dans une ville par exemple, de gens qui ont une même conviction religieuse et qui du coup vont aller chez les commerçants, de même option. Ça fait une pression sociale. Alors, est-ce que ce n'est pas une arme charnelle? Vous voyez la difficulté? Il est très facile de devenir persécuteur simplement parce qu'on est largement majoritaire. Et à ce propos, il y a une petite histoire que je trouve délicieuse. Le grand prédicateur anglais baptiste, Spurgeon, dont vous avez entendu, je pense, déjà le nom. Notre église s'appelle Tabernacle parce qu'il avait appelé son église Tabernacle à Londres. A une fois déclaré dans un congrès baptiste, un grand congrès baptiste, les baptistes sont les seuls à n'avoir jamais persécuté d'autres chrétiens. Alors, applaudissements, tout le monde est excité. Puis il a continué sa phrase parce qu'ils n'en ont jamais eu l'occasion. Eh oui, un avertissement qui, je crois, peut nous faire réfléchir. C'est pas si simple de ne pas user d'armes charnelles. Alors nous ne sommes peut-être pas tellement préoccupés par ce problème, mais dans certains pays, c'est peut-être le cas. Je me rappelle un séjour que j'ai fait, très très bref, j'avais été invité donc à donner des cours dans une université baptiste au sud des États-Unis. Et j'avais un peu l'impression que les baptistes là-bas, c'était comme les catholiques, autant où les catholiques avaient beaucoup de pouvoir en France. Et puis, les catholiques, là-bas, un peu comme les baptistes ici. La petite minorité, sans beaucoup de pouvoir, vous voyez. Donc, nous devons savoir qu'il y a de tels problèmes. Et puis aussi, par rapport aux lois, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, les questions du mariage ont bien montré cela. Bon, nous pouvons renoncer au mariage entre cousins germains, qui serait permis par la Bible, si la loi l'interdit. C'est un renoncement. Mais renoncement pur et simple au mariage, si la loi l'interdit? Oui. Les protestants, au temps de la persécution au XVIIIe siècle, ne l'ont pas fait. Là, ils ont enfreint la loi civile, vous voyez. Il y est quand même une question de seuil. Au-delà d'un certain seuil, c'est une atteinte trop grave au droit fondamental de la personne créée en image de Dieu, et ça touche donc à la crainte de Dieu. La même chose pour les sages-femmes d'Égypte, c'est par crainte de Dieu qu'elles ont refusé de l'infanticide. La question de l'avortement se rapporte à cette catégorie. Donc, il y a quand même du plus et du moins. Nous n'allons pas dire, oh, mais dès qu'une loi nous paraît un peu injuste, le taux d'imposition par exemple, alors nous avons le droit de nous opposer. Mais à partir d'un certain moment, l'humain dans le projet fondamental de Dieu semble trop atteint pour que nous puissions simplement dire « Ah, c'est César, c'est une autorité impie, alors nous soumettons ». Vous voyez comment la complexité intervient et comment nous avons besoin de l'aide des uns des autres. Voilà, c'est par là que je conclue ces quelques remarques. En attendant de passer la parole à nouveau à M. Husser, il nous faut nous aider les uns les autres dans l'appréhension de ces problèmes délicats. Nous risquons beaucoup plus facilement de dériver, d'être victimes d'une simple impression personnelle si nous agissons seuls face aux problèmes. Il faut nous aider les uns les autres, nous aider entre chrétiens évangéliques de toutes les époques, nous aider aussi de l'exemple de nos frères et sœurs d'autrefois, comme dans l'exemple du mariage pris par M. Areski. Et j'ai ici des exemplaires du magazine d'Église Sœur qui traite au fond notre sujet, en tout cas certains aspects de notre sujet. Je le signale, je peux les prêter. J'ai deux numéros de la revue de l'Alliance des Églises évangéliques interdépendantes, qui à un moment en particulier ont été très proches de notre Église. À un moment, le Bon Combat avait un dépliant qui, à leur début, qui donnait les nouvelles de leurs églises. Alors, j'ai un numéro de cette alliance qui donne une grande place au sujet « Le chrétien dans la société » et un autre qui a « L'expression de notre foi dans la cité ». Plusieurs articles. Et puis, France Mission a aussi dans sa revue « Action missionnaire » un numéro sur « Église et État ». Une relation à réussir, je peux prêter ces magazines.
Merci. Voilà, on a essayé de poser quelques premiers jalons pour nous aider à réfléchir aux questions complexes auxquelles nous sommes parfois confrontés.